Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon ». Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai ». Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Que ça devait être beau. Excusez-moi la parenthèse. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes. » Et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Permettez-moi de relire ce verset 45e. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et je pense que vous pouvez tous dire Amen. Franchement, que le Seigneur soit béni, que l'on ait ces choses écrites dans notre langue. Il y a des peuples qui ne l'ont pas. Est-ce que vous savez quel est le privilège ce matin que nous avons de pouvoir lire la parole de Dieu dans notre langue? Vous le savez? Ça, c'est un bienfait de plus. Si le Seigneur vous posait la question ce matin, qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Que répondriez-vous à cette question aussi sérieuse, aussi solennelle? Que répondriez-vous si lui-même vous croisait ce soir dans votre maison et vous disait « Ma fille, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire pour moi ?» J'espère que vous répondriez tous « Seigneur, je veux faire ta volonté. Voilà ce qui me préoccupe jusqu'à mon dernier souffle. Oh Seigneur, je ne voudrais qu'une chose, faire ta volonté. » David le disait « Je veux faire ta volonté, ô Dieu. » C'est une chose de le penser là maintenant. Dans un moment sérieux, ça n'est une autre de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour le vivre. Au prince de Tyr, Ézéchiel va dire « Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu ». Ça peut arriver aussi que nous nous trompions et que nous fassions notre propre volonté, mais comme elle est baignée et trempée de religiosité évangélique, nous pouvons penser que nous faisons la volonté du Seigneur. La Bible nous demande d'être sérieux avec cette affaire. Plusieurs fois, il est dit, mais discerner la volonté de Dieu. On ne peut pas discerner la volonté de Dieu sans être très sérieux avec Dieu. Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, mais offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au monde présent afin que vous discerniez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sûr qu'elle peut être très, très bien comprise d'une manière très sommaire, très facilement, par une approche générale. Mais la volonté de Dieu en tant que précise, d'une manière personnelle, c'est quand même quelque chose d'un peu plus sérieux. Vous savez, Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et j'espère que cette affaire vous préoccupe, que ce matin vous êtes en état d'alarme, que vous dites « Oui, 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 la volonté de Dieu, c'est sérieux. » Peut-être que vous avez négligé, peut-être que vous avez pris ça à la légère, peut-être que vous pensez que parce que vous venez à l'église le dimanche matin, vous faites la volonté de Dieu. Vous êtes dans l'illusion si vous pensez que parce que vous venez à l'église, vous faites la volonté de Dieu. Un des meilleurs moyens pour faire la volonté de Dieu, c'est de chercher le baptême du Saint-Esprit. La Bible est catégorique, on l'a lu, vous resterez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Voyez, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs avaient déjà pris les devants et s'étaient autorisés à s'en éloigner. Voyez, c'était des disciples, ils aimaient Dieu et Dieu surtout les aimait. Mais voyez, ils s'autorisaient eux à s'éloigner du lieu où ils devaient se trouver. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être à sa place. À sa place, est-ce que vous comprenez ? Vous allez me dire, mais moi je suis à ma place ce matin. Physiquement, oui, vous êtes à votre place, ça c'est clair. Physiquement, mais spirituellement. Je crois, mes frères et sœurs, que nous avons besoin de prier pour que Dieu nous ouvre l'esprit. Qu'il leur ouvrit l'esprit, pour qu'ils comprennent les Écritures. Nous le savons, nous avons partagé sommairement dimanche dernier, nous avons vu que ce qui attriste le Saint-Esprit, on le sait, on le sait. Une prophétie nous rappelait ce matin que si nous sommes fâchés avec notre famille, je pense qu'il vaut mieux d'abord se réconcilier, puis après chercher les dons spirituels, ainsi de suite. Nous savons ce qui réjouit le Saint-Esprit, nous le savons, ce qui nous permet d'être remplis du Saint-Esprit. Quand on chante des cantiques comme ceux que l'on vient de chanter, il y a de fortes chances que notre lampe se remplisse d'huile, parce que le Seigneur a dit, soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des cantiques spirituels. Quand vous chantez de tout votre cœur, votre lampe se remplit d'huile. Amen. Vous aimez chanter dans la journée ? Eh bien, vous ne vous en rendez pas compte, mais si vous voyez la lampe, eh bien, vous la verriez se remplir chaque fois que vous chantez un cantique et que vous chantez de tout votre cœur. Avez-vous compris les Écritures ? Dira un jour Jésus aux douze. Il venait de leur expliquer que justement, si on ne fait pas attention, pour certains chrétiens, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous avez compris ces choses ? Oui, répondirent-ils. La suite, hélas, nous prouve qu'ils n'avaient pas si bien compris que ça. Et vous pouvez ce matin dire, oui, mais j'ai compris, mais monsieur Gau, vous allez nous prêcher sur la volonté de Dieu, mais ça ne me concerne pas. Moi, je sais. Écoutez bien ce que vous allez entendre. Écoutez bien. Nous allons un jour comparaître devant Dieu, je l'ai dit plusieurs fois, ce doit être le moment le plus merveilleux de l'éternité. Quand vous allez comparaître devant le Seigneur Jésus. Vous voulez que ça se passe bien ? Vous y pensez ? Vous le savez ? Vous serez tout seul, vous allez paraître devant Dieu, il ne va pas vous dire, tiens, et voilà, vous n'allez pas commencer à vous justifier. Nous, on peut se justifier aujourd'hui, on a plein d'éléments, et je n'ai pas le temps, et tu ne comprends pas, et si, tout ça, c'est pas sérieux. La volonté de Dieu. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, vous connaissez la parabole du semeur. Le Seigneur Jésus s'adresse à une foule, il n'y a que les disciples qui reviennent à la charge pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce que signifie cette parabole ? Jésus va leur dire, voilà, vous entendrez, vous ne comprendrez pas. Les gens, il dit, le peuple de Dieu, on leur a fermé les yeux, on leur a fermé les oreilles afin qu'ils ne comprennent pas. Il n'y avait pas la soif, donc aucun résultat. Mais eux, ils veulent savoir. J'espère que vous faites partie de ces gens qui veulent savoir, qui veulent comprendre, qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Il dit, voilà, je vais vous expliquer ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, alors ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu le matin, 3 heures après, ils ont oublié. Attention, il n'est jamais dit, il vous sera fait selon votre mémoire. Le fait que vous lisiez votre Bible le matin prouve que vous aimez le Seigneur. Il y a des gens qui se laissent culpabiliser par l'ennemi parce que 3 heures après, ils ont oublié ce qu'ils avaient lu. Attention, ce n'est pas ça. Ne vous laissez pas piéger par cette ruse de l'adversaire. À partir du moment où tous les matins, d'une manière consciencieuse, vous lisez votre parole, la lampe, là aussi, se remplit d'huile. Vous ne le voyez pas, mais c'est ce qui se passe dans votre esprit. Ne pas comprendre, c'est pas la compréhension n'a rien à voir avec l'intelligence. La compréhension a à voir avec l'ouverture du cœur. Ce matin, pendant que nous attendions que l'heure arrive, nous prions. Vous avez vu que nous aimons prier avant que le culte ne commence. Je crois que c'est une très bonne chose que l'église soit dans le recueillement pour accueillir les frères, etc. Et une sœur priait, oh Seigneur, fais que les cœurs soient ouverts afin que ta parole descende. Mais soyons sérieux et rendons-nous à l'évidence. Beaucoup de chrétiens sont dans ce cas où ils écoutent la parole de Dieu et ils ne la comprennent pas. Ils ne la comprennent pas parce que leur cœur s'est endurci. Le Seigneur Jésus parle d'un terrain sur lequel lui, il sème. Nous, on ne sèmerait pas. Mais Dieu, il aime tout le monde et il sème sur tous les cœurs. Un paysan ne sèmerait pas sur un chemin. Il serait considéré comme quelqu'un d'inquiétant. Mais le Seigneur, lui, il nous enseigne qu'il peut faire en sorte que sa parole soit semée dans tous les cœurs. Tous. Parce qu'il nous aime tous. Et qu'il peut faire des miracles, même avec des cœurs durs. Mais il n'empêche que s'il peut faire un miracle, il y a aussi l'évidence que nous pouvons avoir un cœur qui ne va pas bien. Et il dit, voilà, c'est cet homme qui a reçu la semence le long du chemin. Il écoute, il ne comprend pas. Et dès que la semence a été semée, l'ennemi n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour enlever la semence. Et vous savez combien de fois la parole de Dieu a été semée et vous n'étiez peut-être pas à la voiture ou pas arrivé à la maison, que déjà la parole s'était évaporée. Qu'est-ce qu'il a prêché le pasteur ce matin ? Ouais, si, c'était bien. Mais c'était quoi qu'il a... la parole. Je sais bien qu'on ne peut pas tout retenir. Mais il y a quand même quelque chose qui peut retenir notre attention quand même. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous n'allez pas... Même moi, ce soir, si vous me demandez de redire tout ce que j'ai dit ce matin, je n'y arriverai pas. Mais j'espère que j'ai quand même retenu une parole de Dieu. Qu'elle aura pu être saisie à pleine main, c'est celle dont j'avais besoin. Il écoute et ne comprend pas. Les disciples ont beaucoup entendu et ils n'ont pas beaucoup compris. Il a fallu la Pentecôte, il a fallu la résurrection pour qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est une question que l'on peut quand même se poser. Est-ce que mon cœur est dur? Est-ce que mon cœur est endurci? Est-ce que vous priez pour dire, Seigneur, mais si mon cœur est endurci, eh bien que la charrue de ta parole puisse tout à nouveau labourer tout le terrain de mon cœur. Le Seigneur le demande. Seigneur, compare ça justement le cœur à un terrain qui doit être labouré. Vous avez vu, ici bien sûr on est au centre de Toulouse, mais à l'extérieur, si vous venez de la campagne, vous avez vu aujourd'hui ces gros tacteurs avec ces quadrisocs. Vous savez, quatre socs, l'un derrière l'autre, même plus parfois. Vous avez vu, ils soulèvent de la terre jusqu'à 70 cm. C'est impressionnant. Quand je vois ces tracteurs qui labourent, je dis, Seigneur, fais pareil. Sur tout le terrain. Il ne faut pas juste un sillon. Juste un sillon le dimanche matin, ça a été bien tracé. Seigneur, sur tout le terrain, passe-y. Tu le connais, tu le sais. Ta parole n'est-elle pas comme un marteau? Oh, qui brise le roc. Le Seigneur, il utilise sa parole, on l'a vu jeudi, il utilise comme, elle est comparée à du lait pur, qui nous nourrit. Mais sa parole est assez puissante également pour être comparée à un marteau qui va briser la dureté. Il ne va pas briser le fruit, il va briser la dureté. Seigneur, brise la dureté de mon cœur. Je sais que tu es capable de changer l'eau en vin. Peut-être que ceux qui ont été à Jérusalem sont passés à Cana, j'en sais rien. Hein, vous y avez été hein. Eh bien, vous savez que Dieu a voulu qu'à cette ville, il fasse son premier miracle. Il a voulu nous montrer ce qu'il est capable de faire lorsqu'on l'invite. Il est capable de changer l'eau en vin. Amen. Est-ce qu'il est toujours capable de changer les ténèbres en lumière? Est-ce qu'il est capable de changer le désert en étang? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est de la poésie biblique? Est-ce que Dieu est capable de changer les lamentations en allégresse? Alors si mon cœur est dur, est-ce qu'il est capable de l'attendrir? N'a-t-il pas dit par le prophète Ézéchiel, je vous donnerai un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre? Il le sait, le Seigneur, et il ne faut pas faire du cinéma. Peut-être que nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas le moment de faire du cinéma. Jésus a dénoncé tant et plus l'hypocrisie comme c'est pas possible. S'il a bien été sévère sur un point, c'est sur l'hypocrisie. Vous l'avez remarqué dans la parole de Dieu. Alors, Seigneur, mon cœur, oui, j'écoute la parole et je la comprends pas. Alors, c'est pas parce que vous n'avez pas fait des études, ça n'a rien à voir. Si vous ne comprenez pas la parole, c'est parce que votre cœur s'est endurci. N'allez pas chercher des excuses dans les études, dans l'éducation que vous avez eue, le milieu favorable ou pas, la compréhension. Dieu serait vraiment injuste si la compréhension dépendait de l'intelligence. Croyez-moi, je pèse mes mots. Dieu serait un Dieu injuste. Et comme vous savez tous très bien que nous avons affaire à un Dieu parfaitement juste, la compréhension dépend de l'ouverture du cœur. Alors arrêtons de nous cacher derrière des excuses qui ne nous serviront à rien pour voir l'œuvre de Dieu se faire. Endurci, ben ouais, un cœur peut s'endurcir. Ça vous est peut-être arrivé de vous refaire piéger. Nous avions un cœur sensible le jour de notre conversion, mais voilà, nous avons été peut-être piégés par une épreuve. Ça vous est jamais arrivé de vous faire piéger par une épreuve, peut-être par une déception. Oh, on aimait quelqu'un, on avait confiance en lui, et patatrac, eh bien on a perdu cette confiance. Alors, notre cœur s'est un petit peu endurci. Mais puisque c'est comme ça, je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un. Vous voyez, des paroles stéréotypées qui nous mettent dedans, vraiment. Un jour, c'est Samuel qui dira au peuple, mais pourquoi vous endurcissez vos cœurs comme les Égyptiens? Mais pourquoi vous faites comme les gens du monde? Et comprenez pas, vous lirez, c'est dans Samuel au chapitre 6. Dans Hébreux, on va lire ce texte. Dans Hébreux au chapitre 3, il y a une exhortation qui est adressée. Il faudrait lire les deux chapitres, Hébreux 3 et 4, pour comprendre le danger de s'endurcir. Hébreux, chapitre 3, c'est dans un contexte extrêmement important d'entrer dans le repos. Beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans le repos, alors que c'est le top niveau. En plus, c'est le début de la vie chrétienne. Cet épître n'arrête pas de rentrer dans le repos, empressez-vous d'entrer dans le repos, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Vous lirez, si vous êtes intéressé par le repos, lisez Hébreux 3 et 4. Mais voilà, au verset 12 et 13, il y a deux exhortations. La première se situe à cela, prenez garde, c'est sérieux. C'est pas prenez soin, prenez garde, faites attention, il y a un danger, comme sur la route des fonds, faites attention, danger. Vous avez vu comment l'autoroute nous presse, des panneaux de pré-signalisation, de signalisation, vous avez vu tous les panneaux qu'il y a, des fois vous arrivez 3-4 kilomètres avant, vous savez qu'il y a un danger. C'est bien, tant mieux, mais c'est exactement, prenez garde, et là de suite on fait attention, de suite hop, on enlève le régulateur, on ralentit, on sait que c'est dangereux. On pense à notre santé, à la santé des autres bien entendu. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Ce n'est pas les païens qui ont qu'un cœur mauvais et incrédule. Ça peut arriver aux chrétiens, au point de se détourner du Dieu vivant. Vous voyez, s'il y a des chrétiens qui se sont détournés, c'est parce qu'ils se sont fait piéger, ils n'ont pas pris au sérieux cette exhortation. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Regardez bien, exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et quand vous lisez la suite, ils se sont fait piéger. Ils n'ont pas pris garde. Et le problème, ils sont morts tous dans le désert, à part deux. Ils sont morts dans le désert. Pourquoi ? Parce que leur cœur n'a pas été sensible. Eux, ils voulaient le miel, ils voulaient le lait, ils voulaient le concombre, ils voulaient la bénédiction. Ils n'avaient pas compris que leur Dieu, qui est le nôtre, voulait d'abord qu'ils apprennent à rendre un culte à Dieu. Ça ne les intéressait pas. Eux, ils étaient intéressés par la bénédiction. Bien sûr que Dieu les a gardés, c'est pas pour ça qu'ils ont été en enfer. Mais ils ne sont pas rentrés dans les promesses de Dieu. Ont été en enfer ceux qui ont vraiment rejeté Dieu, ça c'est clair. Mais ils ne sont pas rentrés dans les promesses de Dieu parce que leur cœur était endurci. Reconnaissons que si l'Église du Seigneur Jésus-Christ en France, tous les chrétiens qui sont nés de nouveau et qui aiment la parole de Dieu, si nous n'entrons pas dans les promesses qui sont tout le temps là, disponibles, prêtes, là, le Seigneur désire qu'une chose, c'est que nous entrions dans ces promesses, c'est parce que nous nous sommes fait piéger. Il faut faire attention. Il y a des séductions. Vous ne croyez pas qu'il y en a des séductions ? Vous trouvez qu'il y en a de plus en plus ou de moins en moins de séductions? Eh bien, le Seigneur, faites attention, exhortez-vous, entre chrétiens, il faut que nous nous exhortions. Fais gaffe, attention, veille sur ton âme. Est-ce que les chrétiens, ils peuvent s'exhorter comme ça? Est-ce que tu as lu ta Bible? Oh, ne prends pas la tête avec ça. Vous ne croyez pas qu'on peut demander à un chrétien, est-ce que tu as lu ta Bible? On ne peut pas le dire avec cœur? Sérieusement, ce n'est pas veiller sur quelqu'un de lui dire, est-ce que tu as lu ta Bible? Jésus n'a-t-il pas dit un jour à des gens qui auraient dû être bien à leur place, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Oh, on était fatigués. Est-ce qu'elle était à propos cette question? Moi je crois que oui. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Et si vous commencez à prendre mal les exhortations remplies d'affection, peut-être on est maladroit parfois, ça je le sais. Mais si vous prenez mal des exhortations, quand on vous dit, mais veille sur toi, pense à lire ta Bible, n'oublie pas d'aller à la réunion de prière, quand même. On peut le dire avec amour, bien sûr, si on le dit de manière légaliste, l'air de dire Dieu te bénira pas, non, mais là, il vaut mieux rien dire. Mais quand même, vous avouerez qu'il y a un état d'esprit dans lequel on peut s'affecter, plein d'affection, où on peut s'encourager les uns les autres, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Vous écoutez la parole et vous la comprenez, ou vous l'écoutez et vous ne la comprenez pas. Et je sais, parce que je suis à la même enseigne que vous, qu'on a des épreuves et qu'on a des déceptions et qu'on a des jours mauvais et des jours difficiles, mais le Seigneur, il est là. Et il sait comment nous devons nous comporter. Il le sait que le programme, le seul programme qui existe, il passe par le calvaire. Il passe par la croix, il passe par le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus a guéri l'homme à la main sèche dans la synagogue, ils ont tous mal réagi. Et après la guérison, ils se sont concertés pour le tuer, pour vous dire comment s'ils avaient soif de vérité. À partir de là, ils ont commencé à se dire, mais comment on va faire pour le tuer? Ils étaient dans la synagogue. Ils aimaient Dieu. Et Jésus, quand il leur a dit, mais est-ce qu'on peut faire une guérison aujourd'hui? C'était le jour du sabbat. Alors ça s'est mal passé. Il est dit que Jésus a été affligé et indigné à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et tout ça, c'était dans la maison de Dieu, c'était pas dans la boîte de nuit, c'était dans la maison du Seigneur, où les hommes auraient dû avoir un cœur sensible. Le Seigneur Jésus a passé son regard sur tout le monde et il a été affligé. Parce que il savait, il n'était pas affligé, il n'était pas en train de les condamner, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous aimer. Il était affligé parce qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait faire. Parce que vous savez qu'à cause de l'incrédulité, on peut passer à côté de plein d'expériences. Vous le savez. Hein? Pourquoi endurcissez-vous vos cœurs comme les Égyptiens? Hein? Jésus avait dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas. Et le jour même, ils n'ont pas attendu longtemps, hein? Le jour même, les voilà qu'ils avaient décidé de partir à Emmaüs. 11 kilomètres de Jérusalem. Vous y êtes passés? Voyez, ils étaient des disciples. Et le Seigneur les aimait. La preuve. Ce que nous venons de lire ne peut que nous prouver que le Seigneur nous aime, même si nous ne sommes pas au centre de la volonté de Dieu. Et il les a rejoints. Il a voulu les rejoindre. Alors c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que je suis à Jérusalem? Je reste à ma place? Ou est-ce que je suis en train de m'en éloigner? Comme ces deux disciples qui s'éloignaient, ils avaient pris la décision. Voilà, c'est les disciples, ceux qui font ce qu'ils veulent. Dieu donne un ordre, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés de la puissance du Saint-Esprit. Mais non, moi, je sais ce que j'ai à faire. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir l'esprit de Pentecôte revenir dans l'Église, et il faut rester à notre place jusqu'à ce que l'on soit baptisé tout à nouveau du Saint-Esprit et de feu. Ils discutaient. On n'a pas lu le texte, le passage où ils discutaient, parce que ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de voir surtout comment le Seigneur s'y est pris pour les bénir. Ils discutaient, et on espérait que, et ça pourrait se passer comme ça. Et discuter, ça ne sert à rien. Je suis désolé, ça ne sert à rien. Dernièrement, on m'a dit, monsieur Gault, vous ne voudriez pas faire un débat dans l'église? Non, ça ne sert à rien de faire un débat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle méthode utiliser pour toucher les jeunes? Vous voulez savoir? Soyons remplis du Saint-Esprit. Surtout, c'est pas la peine d'organiser des trucs. C'est, je le dis devant Dieu, et je suis fier de le dire, c'est ridicule. Tant qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, tant qu'on n'est pas soucieux de cette vie de l'Esprit, tout ce qu'on fera, ça sert à rien. Parce que la chair, c'est comme ça, ça sert à rien. Ça a été dit par quelqu'un d'intéressant, ça ne peut pas servir à quelque chose. Et si Jésus avait dit « restez à Jérusalem », il fallait qu'il reste à Jérusalem. Bien sûr que le Seigneur, il saura venir nous rattraper, nous rejoindre. Bien sûr qu'on ne le reconnaîtra pas. Quand il nous rejoindra par quelqu'un, par une épreuve, par une circonstance, nous, ça ne va pas nous plaire. Mais là, voyez, il y a quand même des gens qui ont soif de Dieu. C'était quand même des disciples. Et le Seigneur, il est de quoi discutez-vous? Il savait très bien. Mais il voulait rétablir le contact. Est-ce que c'était bien? Est-ce que Jésus savait de quoi il parlait? Je pense. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Ah, tu sais pas, t'es le seul ici. T'es le seul à Jérusalem, mon pauvre, qui ne sache pas ce qui se passe ici. Et tu sais pas. Enfin, elle est belle, cette histoire. Mais Jésus les écoute. Parce que des fois, on a besoin quand même de... C'est pas vrai? Des fois, on a besoin. Vous savez, les païens, à cause de l'endurcissement de leur cœur, il s'amasse un trésor de colère. C'est écrit, oui ou non, dans les Romains. Mais nous, à cause de l'endurcissement, nous ne nous amassons pas un trésor de colère, nous serons épargnés de la colère. Attention, ne confondez pas les genres. Mais les chrétiens, à cause de l'endurcissement de leur cœur, passent à côté des œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? L'endurcissement des païens est très 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 sévère, parce que ça va attirer la colère. Nous n'attirons pas la colère de Dieu, nous sommes sauvés. Mais il n'empêche que nous passons à côté de l'œuvre à laquelle Dieu voudrait nous amener. Et c'est quand même dommage, vous le reconnaissez. Vous comprenez? Alors ce matin, Jésus nous rejoint. Vous êtes d'accord avec nous? De façon, c'est incontournable. Que nous en soyons conscients ou pas, à partir du moment où il y a deux ou trois chrétiens dans un lieu, le Seigneur est au milieu d'eux. Oui ou non? Vous le savez. Donc, le Seigneur nous a rejoints ce matin. De quoi vous entretenez-vous? Est-ce que le Seigneur peut vous poser la même question? De quoi vous entretenez-vous? C'est ainsi. Quelle est votre préoccupation? Peut-être qu'il pourrait poser la question comme il a posé à Adam, une fois qu'il a mangé du fruit de l'arbre défendu. Où es-tu? Dieu savait très bien où était Adam. Mais où es-tu? Ce matin, où es-tu? Vous avez au troisième rang, monsieur Go. Où es-tu spirituellement? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Dans quel état d'esprit es-tu ce matin? Est-ce que tu es dans un état d'esprit? Oui, je reconnais. Je reconnais. Vous avez vu, quand Dieu s'est présenté, ça a piétiné. Alors, pour que je t'avais défendu. Ah, mais c'est pas moi, c'est pas moi. C'est ma femme. Et la femme, ah, c'est pas moi. C'est le serpent. Et vous savez, on s'en sortira pas là. Hein? S'il n'y a pas le réveil, ah, c'est la faute au pasteur. C'est lui le responsable. Et le pasteur, ah, non, c'est la faute à l'église. Ah, c'est la faute au diable. Il a bon dos, hein. Souvent. Je ne me ferai pas son avocat, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Je crois que c'est une question personnelle, le réveil. Où es-tu? De quoi tu t'entretiens? Ou comme à Élie, qui lui aussi avait fui la volonté de Dieu, dans la souffrance, bien sûr. Et le Seigneur ne l'a pas abandonné non plus, puisqu'il va le retrouver dans sa caverne, l'enfermé. Que fais-tu ici, Élie? Alors ces questions, est-ce que vous les acceptez? Où es-tu? Que fais-tu? De quoi tu t'entretiens? De quoi tu t'entretiens en ce moment? C'est quoi qui te préoccupe le plus? Est-ce que c'est la voiture que tu as rayée qui t'affole? Ou est-ce que c'est le salut des âmes de ta famille qui t'affole, qui t'inquiète le plus? Hein? Ils ont marché 2 heures environ. Jérusalem, Emmaüs, ça fait 11 kilomètres. Pendant 2 heures, ils ont, comme nous, le culte, de 9h30, on marche ensemble 2 heures, ce matin. Oui ou non? Pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Ouais. Est-ce que vous êtes comme le Seigneur? Est-ce que les disciples? Est-ce que vous vous contentez juste d'une prédication? Jésus leur a expliqué par les prophètes, par les psaumes, par les proverbes, par les paroles, ce qui le concernait. Mais ils ne voulaient pas juste une prédication. À un moment donné, ils ont compris que celui qui les accompagnait allait s'éloigner. Et ils ont prononcé 3 mots qui, je le voudrais, soient prononcés par tous les chrétiens de Toulouse. Reste avec nous. De l'air de dire une prédication, c'est bien. La preuve, c'est que quand ils parlaient, leur cœur commençait à se réchauffer. Ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire. Après avoir déversé leur mélancolie, leur désespoir et leur affaire, Jésus leur a parlé, il ne les a pas condamnés, il ne leur a pas dit, mais comme... Non, il leur a commencé. Que le nom du Seigneur soit banni. Je crois qu'il est écrit un jour, quelque part, sa patience est notre salut. Je le crois. Reste avec nous. Le soir, le jour est sur son déclin. Si vous projetez ça dans la dispensation de la grâce, je pense qu'on est dedans. Le soir approche. Le jour de la grâce est sur son déclin. Vous le croyez? Alors Seigneur, reste avec nous. Tu marches 2 heures ce matin avec moi, à côté de moi. Tu utilises le pasteur de l'assemblée pour réchauffer un petit peu mon cœur. Je le comprends. Ça me va bien. Mais franchement, je veux plus. Il faut que tu restes avec moi. Il faut que tout à l'heure, dans la rue, ce soir, dans la maison, je puisse répéter cette prière avec mon cœur. Seigneur, reste avec moi. Ça ne me suffit pas de marcher 2 heures avec toi, le dimanche matin. Parce que pour certains chrétiens, c'est ça. 2 heures le dimanche matin, et puis après, à dimanche prochain. Ah, ne riez pas. C'est profondément grave parce que c'est la religiosité qui a tué la Pentecôte. Reste avec moi, Seigneur. Je veux pas qu'on se sépare. Je veux pas juste une prédication de temps en temps qui est bien biblique, bien ficelée. Non. J'en veux pas. Seigneur, reste avec moi. C'est ce que vous voulez? Que le Seigneur reste avec vous? Reste avec moi. Il faut plus qu'un dialogue, une explication sur la doctrine. Ne fallait-il pas que le Christ souffre? D'accord. Seigneur, j'aime la doctrine. J'aime la sainte doctrine. Mais j'aime plus que la doctrine. J'aime le Dieu qui a institué la sainte doctrine. Et c'est ça que j'ai besoin. Il me faut un moment de communion. Il me faut un moment de restauration. Il me faut un moment de rafraîchissement. Oui, leur cœur brûlait, mais leurs yeux n'étaient pas ouverts. Ils ne réalisaient pas qu'ils avaient affaire à ce Dieu qui était vivant. Pour eux, il était mort. Il était mort, point. Il était mort. Et ils ne réalisaient pas qu'il était avec eux, vivant et ressuscité. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et heureusement qu'ils ont eu la soif, parlons de soif, de dire, reste avec nous. Il faut un peu plus qu'un bon moment de 2 heures de marche avec le Seigneur le dimanche matin. Il faut quelque chose qui s'améliore. Il me faut un temps de rafraîchissement. Il me faut un temps de restauration. J'ai besoin de guérison intérieure. Peut-être que vous souffrez, oui, l'endurcissement a provoqué une blessure, l'endurcissement a provoqué, je ne sais pas, de l'amertume, mais il le sait le Seigneur. Quand vous regardez le topo des 2 disciples, ça, il y avait pas mal de choses, qui n'allaient pas, qui n'allaient plus. Je le sais, si vous avez lu l'évangile, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous le savez que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Vous le savez, il n'a pas changé, il est le grand juge de l'univers, il va être le grand juge de l'univers. Malheur à ceux qui l'auront pour juge, mais bénis soient ceux qui l'ont pour père et pour avocat, et qui peuvent dire ce matin, je le sais, oui, je veux plus que mon cœur bouillonne un petit peu, je veux qu'il me touche, je vais prendre le pain et le vin, je veux que tu me guérisses. Il est venu guérir les cœurs brisés, tous les cœurs brisés. Il n'y a pas une élite, ah, toi t'as fait des progrès cette semaine. Ah, vous, vous avez fait des progrès. Ah, toi t'as fait des progrès, Ina. Tu as fait des progrès. Alors toi, je vais te bénir ce matin. Vous voyez, nous on est comme ça. Il n'y a pas d'élite dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous à la même enseigne. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et le Seigneur y guérit tous les affligés. C'est comme ça. Et si vous ne le croyez pas, vous allez passer à côté de la bénédiction. Quand Ésaïe prophétise le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il le dit, je suis venu proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Je suis venu consoler tous les affligés, donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je pense qu'on peut dire, oui Seigneur, reste avec moi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce vêtement de louange. J'en ai marre de me plaindre toute la journée. Je fais une prière le dimanche à l'église, la merci. Merci Seigneur pour le salut de mon âme. Mais toute la semaine, j'ai un esprit abattu. Et j'ai besoin d'une guérison. Alors on va pas accuser, on va pas blâmer. C'est pas, le débat est ailleurs. Seigneur, je vais prendre le pain et le vin. Guéris mon âme. Guéris-la. Guéris mon cœur brisé. Ouais, je suis affligé. Je suis peut-être dans le deuil, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Ça peut arriver d'avoir perdu quelqu'un de la famille. C'est une épreuve. Mais Dieu vous consolera. Et puis il est au ciel. Mais bon, c'est bien. Mais vous savez, les consolateurs de néant, on n'en a pas besoin. Les amis de Job, il n'y en a pas besoin dans l'église. S'il y a les amis de Job, on va s'en occuper. D'accord? Avec amour. On a besoin de l'onction du Seigneur. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Reste avec moi. Reste avec moi. Tout à l'heure, je serai dans la rue, je serai dans ma voiture, je serai ce soir dans ma maison. Ça sera ma prière, reste avec moi. Et le Seigneur, il est entré. Et il a pris les devants, puisqu'il nous a dit que c'est lui qui a pris le pain, qu'il a rompu. Et au moment où il a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. J'aurais aimé voir leur bouille, franchement. J'aurais aimé voir leur tête. Il était mort 5 minutes avant, et tout d'un coup, il sera... Alors, j'ai lu dans un commentaire, moi ça m'a plu ça, je ne sais pas si c'est ça, mais ça m'a plu, que quand Jésus a rendu grâce, il a levé les mains, et qu'ils ont vu les cicatrices dans ses poignets, et que là, ils ont dit, oh, il est vivant. Ils sont retournés à Jérusalem, à leur place. Ils sont retournés à Jérusalem. J'aimerais savoir combien de temps ils ont mis. Comparé à l'allée. Je pense qu'à l'allée, ils devaient être voûtés, tout recroquevillés. Je pense qu'en repartant, leur pied allait plus vite que leur cerveau. J'en suis sûr. Seigneur, il faut qu'on partage le pain de nouveau. La Sainte Cène, vous savez, quand je pense qu'il y a des églises maintenant où on la prend une fois par mois, ça ne va pas faire l'affaire de l'œuvre de Dieu, ça. Je crois que c'est une bénédiction de la prendre chaque fois que vous vous réunirez. Et moi, s'il fallait faire un changement, eh bien, on la prendrait le mardi. Mais on ne la supprimera pas un dimanche, croyez-moi. Reste avec nous, Seigneur. Leurs yeux s'ouvrirent. Pour eux, il était dans une tombe. Et là, en quelques secondes, parce que le pain brisé qui représente l'œuvre de la croix, chaque fois, qu'est-ce que ça représente, ça? Le calvaire. Et ils s'en rendent compte, j'en ai là, en train de manger avec le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Vous avez vu dans l'Apocalypse comment Jésus se présente, j'étais mort et je suis vivant. Ça n'a pas changé, hein? Il est vivant le Seigneur. Ce matin, il n'a qu'un désir de bénir tous les pécheurs. Alors s'il bénit les pécheurs, est-ce qu'il ne peut pas bénir les chrétiens? Pourquoi vous permettez-vous de dire oui, mais moi vous savez, pourquoi tout d'un coup vous êtes dur envers vous-même? Vous savez que Dieu peut bénir n'importe quelle prostituée qui se mettrait à genoux et demanderait le pardon de ses péchés. Est-ce qu'il le ferait le Seigneur? Est-ce qu'il le ferait ce matin? Est-ce que Dieu pourrait bénir un pédophile? Est-ce que Dieu pourrait bénir un persécuteur de l'église? Est-ce que Dieu pourrait le faire? Et vous doutez de l'amour du Seigneur? Vous ne croyez pas qu'il peut vous bénir ce matin? Vous entendez? Quand il dit, il guérit tous les affligés, ça veut dire tous. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, il n'a pas dit, ah, vous trois au fond là-bas, les trois hypocrites, allez-vous-en. Vous croyez que dans ces tous, il y en avait quelques-uns qui n'allaient pas trop bien? Moi, je suis sûr qu'il y en a qui allaient très mal. Et le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous. Ça ne peut pas être plus clair. Il est le premier et le dernier. Il est le vivant. Il vit au siècle des siècles. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Il est le Dieu tout-puissant. Vous entendez, mes frères et sœurs? Il règne dans les cieux. Alors pour vous ce matin, est-ce que Jésus est vivant? Ou est-ce qu'il est mort? Ou est-ce qu'il est dans le ciel à des années-lumière et qu'il s'intéresse qu'à l'élite de l'Église? Il est vivant. Il vous aime, et ce matin, il vous rejoint, mais il ne vous rejoint pas juste pour que votre cœur se réchauffe. Ah, ça nous fait du bien, vous savez, Monsieur Gault, vos prédications tous les dimanches matin. Mais ouais, mais ça ne suffit pas. C'est bien une prédication qui fasse un peu de bien, mais ça n'amènera pas l'esprit de Pentecôte, ça n'amènera pas l'onction du Saint-Esprit, ça nous réchauffera. Alors c'est vrai qu'on peut être réchauffé jusqu'à dimanche prochain, c'est déjà pas mal. Il y a des gens, l'hiver, ils allument le chauffage, hop, 2 heures, que ça tienne jusqu'au matin. Et le matin, ils réchauffent, c'est bien. C'est bien, mais spirituellement, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est que le feu de Dieu descende sur l'Église. Et le feu de Dieu descendra sur l'Église si nous nous consacrons au Seigneur, si nous renonçons à nous-mêmes, si nous portons notre croix chaque jour. Notre cœur qui brûle au-dedans de nous, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut retourner à Jérusalem, il faut se retrouver avec les frères, avec les sœurs, dans la maison de prière. Il faut revenir à la croix. Est-ce que ce matin, quand vous allez prendre le pain et le vin, vous allez voir Golgotha? Est-ce que vous allez voir Gethsémané, là, suant des grumeaux de sang, en agonie? Mais pourquoi il a fait ça? Vous savez, des fois, on compare Jésus à des gens qui ont bravé le feu pour aller chercher des gosses par esprit de devoir. C'est magnifique, il y a des gens qui sont morts dans le feu pour sortir des enfants d'un incendie, tout ça. On voit des trucs, c'est magnifique. Ils l'ont fait par devoir. Mais Jésus, lui, il n'était pas obligé. Il est Dieu. Sur la croix, il faut le dire, c'est Dieu qui est sur la croix, dépouillé de gloire. Mais c'est Dieu manifesté en chair, le créateur de l'univers. Et si nous ne revenons pas à la croix, nous ne verrons pas la Pentecôte. Hier, je me suis posé une question. Vous allez dire, ça ne sert à rien. Vous allez me dire, ça ne tient pas debout. Mais pour moi, ça tient debout. Est-ce que c'est... Ne me prenez pas pour quelqu'un qui déraille, hein. Est-ce que c'est la croix qui amènera l'évangile? Ou est-ce que c'est l'évangile qui amènera la croix? Vous allez me dire, ça ne veut rien dire. Mais moi, je vais vous dire, c'est la croix qui amènera l'évangile. Quelqu'un peut dire, mais monsieur Gault, vous partez dans un truc? Non, non, non. Ce n'est pas l'évangile qui amène la croix. c'est la prédication de la croix qui amènera la bénédiction sur l'évangile. Alors vous y réfléchirez, c'est un débat qu'on peut avoir avec les anciens. Mais regardez-le agonisant au calvaire, agonisant à Gethsémané. Regardez-le devant le Sanhédrin, là, on lui crache dessus. On l'a déshabillé presque entièrement. On lui a arraché la barbe, on lui a craché dessus, on lui a donné des coups de poing. On lui a enfoncé dans le crâne une couronne d'épines. Lui, le roi de gloire, quand on va le voir, on va se dire quand même, qu'est-ce qu'il a dû subir ? Défiguré, ensanglanté, blessé, meurtri pour nos iniquités. Oui, ce sauveur qu'on a élevé ce matin, comment l'élevons-nous maintenant que l'heure de la Sainte Cène approche ? Ce sauveur tellement défiguré qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, maltraité, opprimé, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance et il n'a pas ouvert la bouche. Et quand dans le jardin de Gethsémané on l'arrête et que Pierre est affolé et qu'il lui dit il faut faire quelque chose, et Jésus va dire mais tu sais pas. Ne sais-tu pas que je peux invoquer mon Père qui, à l'instant, me donnerait 72 000 anges qui étaient là dans l'invisible, qui attendaient qu'un ordre, qu'un regard de Jésus pour les faire tomber un peu en arrière. Il n'a pas fait. Pourquoi ? Mais pourquoi il n'a pas fait ? Mais pourquoi il a tant souffert ? Quand même ! Pourquoi il a tant souffert ? Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il nous aime. C'est tout. Il vous aime, vous les chrétiens, il vous aime. Les pécheurs, ils vous aiment. Ce matin, est-ce que vous sentez cet amour ? Vous comprenez ? C'est la prédication de la croix. Les yeux se sont ouverts lorsqu'ils ont vu ses mains percées. L'Église retrouvera la bénédiction, la Pentecôte, l'évangélisation, l'amour de la prière, le zèle pour les âmes perdues. Si nous revenons au calvaire, c'est le calvaire qui redonnera le feu du premier amour. Ce n'est pas des méthodes, vous pouvez lire les bouquins que vous voulez, assister à tous les séminaires que vous voulez, vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voudrez, ça ne servira à rien. C'est la croix qui ramènera l'esprit de Pentecôte, la bénédiction. Alors, est-ce que nous voulons porter ce flambeau ? Qu'est-ce que c'est toute cette souffrance que je viens de vous exprimer là ? Cette souffrance, il n'y a qu'une chose à dire. Elle nous montre une chose, c'est la valeur que nous avons à ses yeux. La souffrance du calvaire, ça vous dit ce matin une chose. Vous voyez la valeur que vous avez à mes yeux, dit le Seigneur. Voilà. La souffrance du calvaire, c'est ça. Je vous aime, je ne pouvais pas en faire davantage. J'ai tout accompli, tout, pour que vous soyez guéris. Voulons-nous véritablement ce feu ? Voulons-nous véritablement ce cœur embrasé ? Voulons-nous retrouver le feu du premier amour ? Ça passera, je répète, que par la croix. Que par la croix. Et ça serait bien pendant quelques mardis de suite de faire des exhortations sur le calvaire, hein, sur ce qu'est l'abnégation, le renoncement, ce qu'est vraiment la croix. Peut-être revenir simplement au sacrifice de Jésus, réexpliquer pardon, le sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez, quelqu'un serait-il contrarié que nous abordions le sacrifice de Jésus-Christ ? Quelqu'un serait-il peiné ? Et vous préférerez une grosse étude sur le Lévitique ? Vous ne voudriez pas que l'on continue à parler de Jésus-Christ agonisant au calvaire ? Là, les bras de Jésus sont toujours tendus. Les bras du Seigneur ils sont toujours ouverts. Il est mort de cette façon pour nous rappeler qu'il n'a pas changé. Ses bras sont ouverts. En ce moment, bien sûr, il est assis sur le trône, couronné de gloire et d'honneur. Mais je ne serais pas étonné que ses bras soient grands ouverts pour accueillir tous les hommes encore. Les pécheurs, vous qui n'êtes pas sauvés, repentez-vous. Peut-être que nous sommes à l'aube de l'enlèvement de l'Église, mais repentez-vous maintenant. Ne dites pas, on verra demain. Et si cet après-midi, une voiture vous renverse et que vous alliez en enfer pour l'éternité ? Vous regretterez éternellement de ne pas avoir écouté la prédication de la croix. Votre vie ne vous appartient pas. Vous pouvez dire, moi, j'ai mon dernier check-up, ça va bien. Ça ne veut rien dire. Vous allez peut-être mourir demain. Et vous devez vous réconcilier avec Dieu. Et vous, les chrétiens, nous, les chrétiens, ses bras sont ouverts. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants ? Est-ce qu'on peut dire, oui, Seigneur, ça va être ma prière pendant des jours, des jours et des jours et des semaines. Reste avec moi. Reste avec moi. Quelques frères, s'il vous plaît. Prenez quelques frères pour la Sainte-Cène. On va prendre la Sainte-Seine. Est-ce que vos yeux sont ouverts? Est-ce que vous voyez les promesses, les œuvres, les projets, l'espérance, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, les robes de fin lin? Est-ce que vous voyez ces choses, votre maison dans le ciel, ces couronnes que vous allez jeter aux pieds du Seigneur? Est-ce que vous voyez que le meilleur est devant vous? Est-ce que vous le voyez cela? Est-ce que vous ne voulez pas revenir à Jérusalem avec les deux disciples, vous retrouver dans la prière avec les frères, avec les sœurs? Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit, redonne-nous une église qui prie, une église qui aime la prière, une église qui est exaucée quand elle prie, parce que rien ne vient faire obstacle. Oui, comme la prophétie le disait, si vous êtes fâché avec quelqu'un, réconciliez-vous, envoyez un courriel, envoyez un courrier, un coup de téléphone. Mais si vous êtes fâché avec quelqu'un, réconciliez-vous, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Le Seigneur, il guérit tous les affligés, tous les cœurs brisés. C'est le spécialiste, c'est le réparateur des brèches. Alors avec sérieux, solennité, avec beaucoup de reconnaissance, peut-être même avec crainte, recueillons-nous pendant que les frères préparent le pain et le vin. Et là, saisissez la victoire. Si vous êtes pécheur, repentez-vous. Ne dites pas, moi j'ai ma religion. Vous n'avez la votre religion, elle sert à rien. La nôtre, elle sert à rien. Est-ce que vous avez Jésus-Christ comme sauveur dans votre âme? Est-ce que vous avez pleuré sur vos péchés? Oui, si vous l'avez fait, que le Seigneur soit béni. Mais les pécheurs, les adolescents, vous qui n'êtes pas encore baptisés, convertis, repentez-vous. Il est mort sur la croix. Bientôt, il va être le juge de l'univers. Bientôt, il va être assis sur le grand trône blanc. Malheur aux hommes qui devront confronter le juge de l'univers. Béni soit celui qui vont voir leur avocat, Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez vous lever, vous qui êtes baptisé par immersion, vous qui aimez Jésus-Christ, vous qui êtes d'accord avec tout ce qu'on a partagé ce matin, vous qui dites oui, oui, reste avec moi. Reste avec moi ce soir, je ne serai pas devant la télé, je serai dans ta présence. Et tu vas ouvrir mes yeux, tu vas ouvrir mon cœur, tu vas libérer ma vie. Et je veux être vainqueur. Oui, tu tiens les clés de tout, Seigneur. Prenons le pain et le vin avec beaucoup de reconnaissance. Et prenez la victoire. Si Jésus a donné sa vie au calvaire, à combien plus forte raison ne donnera-t-il pas toute chose à ses enfants? Seigneur, merci d'avoir institué la scène. Merci de nous permettre de cette façon aussi simple et aussi solennelle de comprendre ce que tu as vécu à Golgotha, ce que tu as vécu à Gethsémané, ton agonie, ton sang versé, ton sang versé. Il a versé tout son sang. Vous vous rendez compte que quand on lui a percé le côté, il est sorti de l'eau. Ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'il avait donné tout son sang. Ça veut dire, c'est pas compliqué, qu'il n'avait plus de sang. Il a donné tout son sang. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni.